Bleu, RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
À tous, bienvenue sur RCFM et dans Toc Toc, votre émission. Nous vous accompagnons jusqu'à 18h avec Mika Landréani. Bonsoir Mika.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
On est intime hein, au fil du temps. Carrément Mika ce soir. Bientôt ce sera Mi. À la fin de l'année.
C'est de plus en plus court.
Ouais, ouais. Alors ce soir, nous parlons d'une très belle salle ajaccienne. C'est l'Adia et de la suite de sa programmation, musique, théâtre. Il y en aura pour tous les goûts. L'Écosse sera à l'honneur également. On sait qu'elle est chère au cœur du programmateur. On en parle dans un instant. Bonsoir, mon cher Francis Aiki.
Bonsoir Marie.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Ben, c'est un plaisir de venir aussi, de vous y rencontrer, enfin vous y rencontrer en quelque sorte.
Oui, parce que vous êtes à Ajaccio et moi à Bastia, c'est
voilà,
ça que vous voulez
voilà.
dire.
Et oui, un col nous sépare.
Mais heureusement, vous êtes ensemble avec Michael.
Tout à fait.
Qui vous recevait il y a à peu près un mois et demi de mois, et il était déjà question d'Écosse. Francis
Aiki. Oui, vous avez pensé que je radote peut-être.
Non, pas du tout.
Bon, c'est gentil.
Je voudrais aller dans le sens, puisqu'on a un peu bavardé avec Michael avant l'émission. Et c'est une vraie passion, ce pays. C'est...
Oui, c'est un peu ma deuxième patrie, en quelque sorte, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue géopolitique et géopoétique, il y a une véritable.
Richesse.
Pour moi, de véritables liens.
Oui.
Qu'il mérite d'être approfondi et surtout regarder pour mieux se comprendre. Je crois que ça me permet de regarder l'autre pour mieux se voir soi-même.
Comment vous découvrez l'Écosse ?
Eh bien, en fait, par hasard, j'y suis allé volontairement, mais le hasard de ma femme. Enfin, voilà, j'étais en Angleterre, je faisais des études là-bas, et puis les week-ends, souvent, quand j'avais des week-ends prolongés, ben, je prenais un car et j'allais un peu visiter la Grande-Bretagne. Et finalement, je suis arrivé à Édimbourg un soir, et vraiment, j'ai eu cette impression très, très forte que cette ville et ce pays allaient compter pour moi et que j'allais y faire quelque chose. J'ai vraiment eu cette impression, je dirais, dans l'heure qui a suivi mon arrivée.
Parce qu'il faut dire, hein, il faut préciser aussi que vous faisiez vos études donc, au Royaume-Uni, dans une université, je crois, qui était dans le Sussex.
Exactement, bravo, oui, tout à fait. Je faisais en fait une année d'études sur la pédagogie parce qu'il me paraissait que j'allais devenir un jour prof, peut-être. Ce qui a été vrai pendant un temps, j'ai été prof pendant un temps, mais pas si longtemps que ça.
Prof de théâtre, ça compte
prof
aussi.
Prof de théâtre, bien sûr, prof de théâtre et de français et de littérature du Moyen-Âge, parce que c'était un de mes hobbies à l'époque.
Très excitant. vraiment. Alors avant l'Écosse, arrive les 29 et 30, la main de Leïla.
Tout à fait.
Pour faire vite, un Roméo et Juliette à la sauce maghrébine. On écoute le teaser et on se retrouve.
Messieurs et messieurs, bienvenue au Haram Cinéma, le cinéma le plus sulfureux de toute l'Algérie. Au programme ce soir, Casablanca.
Je voulais pas te mentir.
Sors d'ici, c'est interdit aux femmes. Merde, c'était quoi ça?
Vas-y, Samira, c'est comme si je suis pas là, tranquille. Belle sans douce comme ça, toute l'inouïe. Oh, ça va?
Bah, j'arrive pas à bien dormir alors.
T'es pas un petit peu de ma gueule, ça m'a ramzié.
Le problème, c'est que t'es la fille du colonel Ben Saada.
La fille des colonels?
Allah, Allah.
Dites que vous allez m'épouser.
Je t'arrête tout de suite. Je veux le meilleur pour ma fille. Et tu en es très loin.
L'Algérie, tu lui donnes ça, elle te prend ça.
Tu sais ce que c'est? La pénurie.
Les gens en ont ras-le-bol.
Est-ce que tu as dit?
T'as entendu parler de la manif de demain?
Le 5 octobre.
Demain, c'est des gens comme toi qu'on entendra. Qui galèrent pour récolter 3 dinars. On est peut-être en train de changer l'Algérie pour de vrai.
C'est maintenant que tu peux te faire entendre.
La main de Leïla, deux représentations pour cette pièce, les 29 et 30 mars à l'Adia. Francis Aeki, le teaser évidemment donne très très envie. Vous nous en dites un mot?
Le teaser est à la hauteur de ce qui va suivre. C'est un magnifique spectacle. Et en plus, je dirais qu'aujourd'hui, l'actualité nous rattrape une fois de plus. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, voilà, donc... C'est une histoire d'amour. C'est oui, en effet, comme vous l'avez dit justement, c'est un Roméo et Juliette en Algérie, dans l'Algérie contemporaine.
Mise en scène par Régis Vallée. Je crois qu'il y a trois comédiens qui jouent plusieurs rôles. Je me trompe pas. Le décor est assez épuré, mais très malin. Moi, j'aime bien le théâtre qui trouve des astuces, qui ajoute de la poésie. C'est le cas ici, dans ce que j'ai pu voir, dans les différents extraits que j'ai pu voir sur le net. Et je pense que ça va être un très beau spectacle.
Absolument, à ne pas manquer.
Bon.
Vraiment.
Alors, La main de Leïla, première représentation le 29 mars et deuxième représentation le 30 mars. Et revenons à l'Écosse avec le 6 avril, Nightworks.
Oui, je tourne les pages parce que j'ai peur d'en oublier. Oui, Nightworks, voilà, un magnifique groupe. La saison dernière, on avait déjà fait venir un groupe écossais, oui, en effet, qui s'appelait Scarivore et qui avait explosé juste avant de venir chez nous, explosé dans le succès, évidemment. Et qui s'en est tout à fait remis et pour qui ça va très très bien. Et Nightworks, c'est la même chose. On les a choisis cette saison et leur actualité est magnifique. Ils ont fait un tabac un peu partout là en ce moment.
Mais c'est un groupe électro.
C'est un groupe électro-trad. Mais c'est de l'électro.
Trad parce qu'il y a une cornemuse, mais c'est vraiment de l'électro. C'est de l'électro. Et parfois, ils rajoutent des voix, ils ont des invités.
Tout à fait, oui. La poésie, il y a du gaélique. Les textes sont la plupart en gaélique. Mm-hmm. Ce qui va vous aider à comprendre, moi aussi.
Moi, je le parle couramment. Donc
je savais, c'est
voilà,
pour ça.
Moi, je suis...
Ça ne m'étonne pas de vous, Marie. Hein.
Et quant à Michael aussi, me semble-t-il.
Le gaélique irlandais, plutôt.
D'ailleurs, je pense qu'on va faire la deuxième partie de l'émission en gaélique.
Branchez un peu notre Francis Aeki sur les différents travaux qu'il a pu réaliser autour de l'Écosse.
Oui, justement, parce qu'on avait parlé déjà il y a un peu moins de deux mois sur ces projets que vous avez montés. Il y a eu la Burns Night aussi, grande fête.
La dernière chose qu'on ait faite d'ailleurs pour l'instant.
Cette belle collaboration en corso-écossaise, on peut dire, avec ce projet Franca Omar, est-ce qu'on peut en rappeler les contours?
Oui, c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'Écosse tend un miroir à la Corse qui le lui rend bien et on se regarde dans ce miroir tendu par l'autre et on s'aperçoit qu'il y a des échos comme ça au niveau de la littérature, au niveau de la poésie, au niveau de la politique, au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'histoire, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on a entamé avec l'Université de Corte, donc il y a un travail aussi plus scientifique qui est fait, et où on se pose aussi beaucoup de questions autour de l'identité et de la part de la culture et de la création dans la prise de conscience d'une identité, d'appartenir à une identité collective. Donc voilà, c'est un travail qu'on mène sur 3 ans. On a fait une année, donc on en a fait un tiers. Et là, on va partir d'ailleurs, on va partir au mois de mai, il y aura Pierre Gambini dans l'aventure, parce qu'évidemment, on ne va pas seulement faire un travail académique, mais il y a un travail de création, donc travail de création musicale, avec Pierre Gambini qui va rencontrer un musicien écossais pour faire un concert fusion à la fin de tout ça. Et puis, il y aura tout un travail théâtral, bien sûr, dans lequel je m'engage, et au mois de mai, je vais rencontrer des homologues pour voir comment on peut travailler ensemble et mettre tout ça en musique et en mots.
Mais la question, c'est comment des identités singulières fortes peuvent montrer que nous avons une identité collective ?
Eh bien, c'est-à-dire que quand on se réveille qu'autour de soi, il y a tout un travail de prise de conscience d'une identité,
ouais.
On se situe soi-même à l'intérieur de celle-là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, bien sûr, toute identité est singulière, mais l'identité collective de dire, tiens, à un moment donné, je suis en Corse, je me sens Corse, je suis Corse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou je suis écossais, je me sens écossais. Bon, vous savez que l'Écosse a failli devenir indépendante il y a 3 ans maintenant.
Mm-hmm.
pour un référendum, que c'est encore une question qui se pose avec le Brexit d'ailleurs. Et donc c'est ça, c'est cette force-là qui fait qu'à un moment donné, on dit, voilà, j'appartiens à un ensemble. Je suis bien sûr singulier, mais j'appartiens à un ensemble. Et je pense que la culture et la création apportent beaucoup dans cette direction-là.
Alors ce sera le 6 avril à 21h à l'ADIA que Nightworks se produira, World Écossaise électro avec une cornemuse, des synthés, une basse, une batterie.
Et c'est dans le... chanteuse.
Et une chanteuse, c'est dans le cadre de Franca Umare. On peut rappeler de quoi il s'agit ?
Franca Umare ?
Oui.
Ben, c'est un peu de ce dont je parlais, c'est-à-dire c'est un regard croisé sur la Corse et l'Écosse. Alors, en commençant par l'histoire, parce qu'il est évident que l'histoire de la Corse par rapport à la France et de l'Écosse par rapport à l'Angleterre sont quand même très très similaires. Ensuite, un regard croisé sur l'imaginaire en lisant des textes qui en effet font écho. Un regard croisé sur l'histoire récente, la politique. Donc comment se fait qu'en ce moment, en même moment, l'Écosse et la Corse ont choisi le nationalisme.
Mais on peut imaginer qu'il y aura d'autres régions comme ça en parallèle avec la Corse.
Ah oui, ben évidemment, je pense que la Catalogne, entre autres, oui, bien sûr, d'autres. Moi, je connais celle-là, donc je m'appuie sur ce que je connais. Mais...
c'est une facilité.
Oui, c'est fastoche.
Non, ouais. C'est mieux de parler de ce qu'on connaît, en effet.
Oui, en général.
Voulez-vous avec du gaélique, avec de la voix, ou voulez-vous électro, les Nightworks ? Vous pouvez choisir.
Ah, écoutez, j'aime les deux, donc je laisse vous choisir.
Michael, vous voulez les entendre de façon instrumentale, électro, avec la cornemuse bien présente, ou vous voulez les entendre avec une voix de femme ?
Allez, on penche pour le premier choix.
Avec la cornemuse ?
Oui, allez, se remet dans l'ambiance et dans le bain.
Nightworks plus électro, je savais que c'était un raver, Michael André.
Thank you.
Beatworks, donc, que vous retrouverez à l'ADIA le 6 avril.
Ce sera chaud, je vous
prochain à 21h. Qu'est-ce que vous entendez par chaud, Francis?
La soirée sera chaude, parce qu'ils sont très festifs, les écoles.
Il y aura du monde.
Ah, ben ça, j'espère, ça. Oui, je le souhaite ardemment. Après, ça, je ne contrôle pas.
Mais... Et sur scène, c'est sur un scène. Show, un véritable show. Donc, c'est à voir et à entendre.
Avec les lumières aussi. Un travail sur les lumières absolument remarquable.
Et c'est debout.
Ah oui.
Ah, ben forcément, qu'on puisse un peu danser.
Exactement.
La suite, avec le 11 avril, vous voulez en dire un mot encore ou on passe
non,
à autre
non,
chose
Non.
Non, ça va.
C'est simplement dire que, justement l'électro est très importante en Écosse actuellement. Qu'il y a eu tout un, il y a un musicien qui s'appelait Martin Bennett qui malheureusement est décédé, qui a vraiment révolutionné la musique en Écosse il y a quelques années. Et depuis, il y a toute une tradition qui est en train de se faire autour de l'électro.
Bon, alors c'était évidemment un plaisir de les entendre. Moi, je n'ai écouté que 2-3 morceaux, mais j'ai lu pas mal d'articles qui disaient qu'il fallait absolument les voir sur scène.
Donc oui, voilà, tout à fait.
J'insiste là-dessus. Il y aura Let's Dance, adaptation libre d'après La Danse de mort d'August Strindberg. C'est la continuité du travail d'Aurélie Pitra avec Nathanaël Maïn après le déjeuner chez Wittgenstein qui avait eu beaucoup de succès qu'on avait pu voir nous les Bastiais au théâtre de Bastia après l'Adia. Ils poursuivent leur chemin.
Tout à fait, ils continuent dans cette veine là
en invitant des comédiens
cette fois-ci. Oui, la dernière fois il y avait déjà quelqu'un d'autre.
Il y avait Marie-Pierre Nouveau, me semble-t-il.
Exactement, voilà, ouais. Marie-Pierre Nouveau, c'était elle. Et là voilà, il y a deux nouveaux comédiens que j'ai croisés brièvement.
Parce qu'ils ont déjà commencé le travail de résidence du côté de l'Adia.
Ils avaient fait quelques jours de défrichage, je dirais, de déchiffrage à l'Adia, oui. Mm-hmm. Il y a quelques mois de cela, oui.
Et l'histoire de la danse de mort?
Alors, je n'ai pas vu le spectacle, hein, parce que c'est une création. Mais donc c'est en fait, ça se passe sur une île suédoise, où se retrouve un jeune couple qui va rendre visite à un couple moins jeune. Pour une soirée conviviale et agréable, sauf que ça va dégénérer assez vite, l'alcool aidant, et que beaucoup de choses vont venir affleurer et se manifester, et ça devient très noir en fait.
Mais on dit que dans La Danse de mort, l'un des rôles serait celui de Strindberg lui-même.
Tout à fait.
Alors... Je dis pas trop de bêtises.
Non, pas du tout de bêtises. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, il y avait beaucoup de lui-même dans ce qu'il écrivait, oui.
Et Nathanaël Maïn est toujours un fidèle de l'ADIA, puisque je crois qu'il animait des ateliers. Est-ce que c'est toujours le cas?
Il anime toujours des ateliers, voilà. Il est souvent dans les lectures qu'on a faites sur l'Écosse. Il y a participé à un certain nombre d'entre elles. Oui, c'est un ami aussi, oui.
Ce sera donc le mercredi 10 pardon, et jeudi 11 avril à 21h. Il y aura deux représentations et Let's Dance. On imagine que ce spectacle tournera. Ça avait été le cas pour le déjeuner. Donc peut-être.
Oui, s'ils sont dans la même énergie qu'ils étaient la dernière fois.
Si ça fonctionne aussi bien, il n'y a pas de raison.
Voilà, ça devrait bien fonctionner.
Francis Aiki, il est 17h25. Sachez-le.
Toc toc, c'est son année.
Alors, quelle est l'année que vous avez choisie, mon cher Francis?
Donc, c'est une
c'était
année
hier.
Lointaine.
C'était hier.
Presque avant-hier, mais pas tout à fait.
J'avais moins un an.
Vous aviez moins un an. J'aurais dû choisir l'année de votre naissance.
Bon. 1974.
Voilà. J'étais jeune à l'époque, quand même.
Vous étiez étudiant, un jeune étudiant.
Et voilà, tout à fait. Je ne connaissais pas le théâtre. Je ne connaissais pas le théâtre, il faut le dire, parce que les gens imaginent toujours que je n'ai vécu que du théâtre. Non, le théâtre est venu assez tard.
Vous ne connaissiez pas le théâtre, mais vous étiez déjà allé au théâtre?
Non, je n'étais pas allé au théâtre.
Jamais?
Non.
Vous aviez lu du théâtre?
Oui, comme tout le monde, j'avais fait mes 3-4 Molières, mon Racine et un vieux Corneille qui traînait, mais ça ne m'avait pas convaincu d'ailleurs.
D'accord.
Donc je pensais que c'était vraiment le comble du poussiéreux, du ringard.
C'est vrai.
J'allais beaucoup au cinéma.
Oui.
J'habitais Cannes, et figurez-vous qu'il n'y avait pas de théâtre à Cannes.
Mais non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, pas de culture théâtrale.
Aucune.
Et vous allez découvrir cette culture théâtrale avec un devoir, on va dire plutôt même un...
Oui, tout à fait. Enfin, disons que quand je suis parti faire mes études donc en Angleterre, on m'a invité à aller au théâtre, parce que c'était quelque chose d'assez courant d'aller au théâtre là-bas. Et donc là, j'ai rencontré des spectacles beaucoup plus contemporains, enfin contemporains d'hier, je sais ce que vous pensez, mais contemporains quand même. Et je me suis dit, le théâtre, c'est bien ça, le théâtre. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser au théâtre là, mais... comme spectateur. Et puis, en effet, j'étais dans un... Il fallait faire un... Je faisais un cours pédagogie, donc de pédagogie, pour devenir prof. Il fallait présenter un projet de fin d'année, quoi. Sur lequel on était jugé. Et donc, moi, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je me suis dit, tiens, parce que j'ai essayé d'être prof de français, je vais travailler au niveau de la langue. Et j'ai pensé au Petit Prince, et je me suis dit, tiens, je vais adapter ça au théâtre, en bilingue. Si on va pas le traduire, on va essayer de le rendre accessible à ceux qui parlent anglais et à ceux qui parlent français. Donc voilà, donc tout ce qui était narratif, donc le pilote qui raconte tout ce qui lui est arrivé, puis ses rencontres, c'était en anglais.
Parce que naïvement, vous vous êtes dit, ça va être facile, c'est un livre qui est aussi pour le jeune public, donc ça va être facile à adapter, le Petit Prince.
Oui, bien sûr, oui.
Mais figurez-vous, ouais, c'est pas si simple quand même.
Bah, cette année-là, justement, c'est pour ça que j'ai choisi cette année-là, ça fait une chanson, cette année-là, tout m'est apparu facile. C'est après que la réalité s'est vengée. Et donc, cette année-là, ça s'est bien passé. L'adaptation s'est faite toute seule. J'ai joué donc avec des amis, enfin des collègues étudiants. On l'a présenté en public et tout ça, ça a été comme un rêve. Tout marchait bien.
Le Petit Prince était joué par une femme ?
Non, c'était joué par un garçon, un étudiant, qui était très, très, très.
Très Petit Prince.
Très Petit Prince, oui, tout à fait intérieurement très Petit Prince et très androgyne, donc c'est difficile de savoir s'il était homme ou femme.
Mais oui, voilà, c'est dur de trouver un Petit Prince chez un garçon, donc c'est pour ça que je posais la question.
Dur chez une fille, c'est presque plus difficile, parce qu'après je l'ai remonté quelques années, enfin beaucoup d'années plus tard à Londres, et j'avais choisi une jeune femme pour jouer le rôle, et ça l'a pas fait si bien.
Ça fonctionnait moins bien.
Ouais.
Alors, c'est toujours le miracle du débutant, puisque vous rencontrez du succès, et un franc succès avec ce spectacle-là, et c'est ce qui vous donne envie, c'est la reconnaissance, l'accueil. Ou c'est le fait de l'avoir fabriqué qui vous a plu ?
Non, c'est la boule de neige. C'est pas. C'est-à-dire que on l'a présenté donc au collège là où j'étais jugé. Donc ça a beaucoup plu. Bon, ça allait. Il y avait dans le public un prof d'une école voisine qui nous a demandé d'aller jouer à l'école. Donc on l'a joué à l'école. À l'école, il y avait quelqu'un dans le public qui était qui dirigeait un théâtre à Londres. Il nous a invités dans son théâtre. Quand on l'a fait en théâtre, on nous a dit, vous devriez venir au Festival d'Édimbourg. On a été au Festival d'Édimbourg. Et à la fin du festival, où là, on a fait un tabac, puisqu'on avait rajouté des représentations, les gens du ministère de la Culture, si vous voulez, local, m'ont dit, voilà, on aimerait que vous tourniez ce spectacle dans toute l'Écosse, mais il faut que vous deveniez professionnel. Parce qu'évidemment, on était amateurs. Tous.
Ah oui.
Et donc, j'ai remonté le spectacle avec des professionnels, et en effet, ça a beaucoup tourné, et voilà.
Avec la langue française ?
Avec les deux, voilà. Oui, je choisissais des comédiens qui pouvaient jouer en français aussi. Ouais.
C'est drôle.
Avec l'accent.
Et sans traduction ?
Sans traduction, non, c'était vraiment rien. Enfin, toute la partie, je vous dis, le pilote qui raconte son aventure, ses rencontres, et qui raconte l'histoire du Petit Prince,
c'était
en anglais. Mais tout ce qui était dialogue, les planètes, le renard, le serpent, la rose, là, tout ça.
Tous les trucs hyper compliqués, quoi. D'accord.
Voilà. Et ça a super bien fonctionné, hein, je peux vous le dire. Je ne suis jamais remis. Regardez, je fais encore du théâtre tout ce temps-là.
Mais oui, c'est formidable. Ouais. Que s'est-il passé en 1974, Michael Andréani ?
Trois petits choix. Alors, on va commencer par le premier. Au début de cette année-là, un large consensus se dégageait pour que l'université de Corse soit implantée à Corte et non à Ajaccio, comme ça avait été prévu et même évoqué. On a retrouvé un petit reportage du 10 janvier 1974, produit par l'ORTF Marseille.
Le 27 décembre dernier, Corte a retrouvé l'ambiance qui est la sienne chaque mois d'août durant l'université d'été. 2000 participants, des jeunes pour la plupart, étudiants et lycéens notamment, ont répondu à l'appel des organisateurs de cette Giornada Corsa di Corte. Ils étaient venus des quatre coins de l'île, leurs banderoles et leurs t-shirts réclamant une université à Corte. Le débat a en fait tourné autour de ce problème, la récente annonce de la création d'un centre universitaire à Ajaccio alimentant bon nombre de conversations.
Università di Corte!
Le succès de cette journée a souligné, si besoin était, l'importance que revêt pour la jeunesse corse l'implantation d'une université dans le centre de l'île. Cette journée s'est terminée par un défilé dans les rues de la cité Paoline et par un dépôt de gerbes au pied de la statue du fondateur de l'université de Corse.
Voilà donc pour ce premier extrait d'actu. Vous vous en souvenez ?
Oui, je m'en souviens. Je venais en vacances, toutes les vacances, j'étais en Corse, donc je suivais tout ce qui se passait.
Vous avez reconnu la voix du journaliste ?
Non.
C'est la voix de Michel de Gentile. Voilà.
Ah oui,
oui, c'est très émouvant de l'entendre. Vous disiez donc que vous venez tout le temps en Corse ?
Oui, voilà, mon père était là, donc je venais les vacances d'été, les 2 mois de vacances d'été. Parce qu'au début, j'étais prof, donc finalement, dans l'histoire de tout ça, je ne me suis pas lancé dans le théâtre complètement. J'ai d'abord fait ce que j'avais prévu de faire, c'est que j'étais prof, donc j'avais les vacances scolaires, ce qui est super, donc je venais Noël, Pâques, l'été. Voilà, donc je suivis tout ça.
Ça a été quelque chose d'assez bouillonnant à l'époque, hein, déjà.
Complètement,
hein.
Complètement.
Parce qu'il y a eu les mobilisations, notamment des étudiants à Nice, avec la consulta Estudiantigurtz qui avait été créée, un véritable bouillonnement, de vraies mobilisations qui ont donc abouti à une revendication qui était quasi sempiternelle. Ça agitait pas mal, ça vous travaillait aussi ?
Ce qui me travaillait, c'était c'est pour nous important qu'il y ait une université qui se construisent en Corse, c'est beaucoup. Après, c'est vrai que j'étais encore assez lointain, parce que c'est vrai que j'étais très engagé là où j'étais. Mais ma belle-mère, par exemple, était une activiste forcenée, donc elle ne me laissait pas me détourner de ce qui se passait à l'instant.
Autre chose en 1974 ?
Le 8 mars de cette année-là, après 10 ans de travaux, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle voyait le jour. Il avait fait l'objet d'une contestation nationale avant d'être inauguré par le Premier ministre Pierre Messmer. Quelques jours plus tard, l'aéroport accueillera d'ailleurs ses premiers passagers en provenance de New York. Extrait du discours du Premier ministre, très intéressant à écouter.
Dans les mois et peut-être dans les années qui viennent, le transport aérien dans le monde continuera de souffrir de la hausse des prix du pétrole. Sa progression sera plus lente. Des escales et certains vols pourront être supprimés. Et déjà, diverses mesures d'économie ont été arrêtées. Mais en dépit des difficultés, le développement des transports aériens ne sera pas arrêté parce que les voyages aériens correspondent aux goûts, aux rêves et aux besoins des hommes. Par ces baies, nous pouvons voir se profiler Concorde. Cet aéroport et cet avion ne sont pas liés seulement par la beauté de leur ligne. L'un et l'autre expriment une même ambition, celle d'un pays qui a voulu d'abord, qui a appris ensuite à épouser son siècle.
Voilà, donc pour cet extrait, hein, avec cet extrait particulier aussi sur les voyages, avec le goût, les rêves, c'est quelque chose qui vous parle forcément.
Bah oui, tout à fait, sauf qu'à l'époque, j'avais peur de l'avion.
Ah tiens.
Je me suis guéri depuis, mais...
Ah, comment vous avez éradiqué votre peur de l'avion ? Ça va intéresser les auditeurs, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux.
J'ai rien fait de spécial, simplement je me suis dit, voilà, il faut...
Mets un coup de pied aux fesses, quoi.
Voilà.
D'accord. Bon, et puis on sait que Orly, les terminaux vont être aussi reliés, ça c'est bien, et c'est bon à savoir, il n'y aura plus qu'un seul aéroport, et on pourra se déplacer sans problème à l'intérieur de l'aéroport, et c'était notre petite pensée voyage, hein, parce qu'on revient de voyage, et donc on repartirait volontiers, n'est-ce pas Michel ?
Un appel du pied à partir en vacances, exactement, c'est ce que je me suis dit en préparant le morceau.
Autre chose.
Dernière chose qui là aussi rejoint la comédie, l'humour, l'homme de théâtre que vous êtes aussi. Coluche, cette année-là, revêtait pour la première fois sa célèbre salopette et son t-shirt jaune pour son premier one-man show, Mes Adieux au Musical. C'est le début du succès national, hein, et en solo pour Coluche, qui peut désormais remplir l'Olympia. Petit extrait de son fameux sketch, L'histoire d'un mec ou comment faire rire sans dire un mot.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non ? Non, parce que... Parce que, par exemple, quand il y a... Par exemple, des histoires. Ou alors. Fois des histoires. Mais là, non.
Ça vous rappelle des souvenirs ?
Oui, eh ben oui, bien sûr, c'est une révolution, ce gars-là.
Oui, c'était l'invention de la beauf attitude aussi. Hein.
Absolument, absolument. Oui, oui.
Très, très drôle, un ressort comique incroyable, très juste, très réaliste aussi. Je disais l'invention de la beauf attitude, c'était plutôt la mise en exergue du beauf dans toute sa splendeur, mais extrêmement drôle. Qu'est-ce qui fait qu'un homme monte sur scène et comme ça déclenche les rires, l'émotion, comme ça, tac.
Ben vous savez, ça reste un mystère, hein. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, j'interviens dans le lycée option théâtre, et de temps en temps, il y a quelqu'un comme ça qui arrive, un élève, et il va arriver sur le plateau, il va traverser le plateau, et d'un seul coup, tout le monde le regarde, tout le monde... Où il va faire rire, on sait pas pourquoi, mais lui, il a ce talent-là. Les autres vont travailler dur pour arriver à quelque chose, et lui, il passe là. Lui ou elle, hein. Passe là, et on ne sait pas pourquoi, et c'est déjà là. Mmh. Après, il y a tout le travail pour construire, pour se consolider, mais ce talent-là est là. Ça reste un mystère.
Est-ce que c'est délicat des acteurs, des actrices ou des acteurs qui ont ce talent-là, quasi inné, par rapport à un texte ? Est-ce que ce sont forcément les meilleurs serviteurs d'un texte ?
Pas forcément. Les humoristes, pas forcément. Mais enfin, en général, ils font du cinéma et ils jouent des rôles et ils apprennent des...
Mais pas tous, hein. Certains se plaignent de pas faire assez de cinéma. D'autres réalisateurs critiquent les réalisateurs qui mettent en scène des humoristes parce qu'ils disent on les lâche et puis voilà, il se passe quelque chose. C'est pas vraiment de la comédie. Donc j'ai l'impression que c'est presque pas le même métier, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Coluche, par contre, a prouvé qu'il pouvait être un très bon acteur de cinéma.
Même dans le drame, absolument.
Même dans le drame.
On pense à Tchao Pantin, oui.
Exactement, comme Bourville, d'ailleurs, aussi, a été très émouvant à son époque.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ils sont à prendre avec des pincettes, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais travaillé, moi, avec un humoriste réellement, mais je pense que ça va pas être forcément très simple.
Même des acteurs qui prennent beaucoup de liberté par rapport au texte. Hein. Je crois même savoir que Gérard Depardieu, des fois, en fait, casse sa tête sur les tournages, et puis plus ça va, plus c'est pire.
Mais oui, je pense qu'il ne doit pas s'affiner. Mais oui, ben voilà, oui. Mais après, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est aussi un peu différent. Au théâtre, c'est un peu compliqué. Ça arrive aussi, bien évidemment. Mais comme on est quand même dans une situation de troupe, même si c'est une troupe provisoire, temporaire, éphémère, mais il y a quand même besoin de travailler avec les autres. Et ça se voit quand un comédien joue seul. C'est peut-être moins dans la culture actuelle. Ça a un peu évolué, je pense.
Tout le monde peut jouer ?
Oui, tout le monde peut jouer jusqu'à un certain point. Après, ça dépend ce qu'on en attend. Tout le monde peut s'exprimer par le théâtre. Tout le monde peut se dépasser. Après, jouer... Je ne sais pas non plus, c'est encore un mystère pour moi. Je me dis à chaque fois, je me mettais en touche à chaque fois que vous me posez une question.
Non, mais c'est tout à fait honnête. Mais c'est intéressant de faire travailler des amateurs.
Ah, complètement. On fait beaucoup ça, là. Mais c'est vrai que maintenant, je travaille plus avec les ados. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les lycéens.
Pourquoi ?
Les secondes, première, terminale. Ben parce que les jeux ne sont pas encore faits complètement. Après, quand un adulte... qui n'est pas professionnel, se lance au théâtre, et c'est pas du tout une critique, hein. Il faut le faire, il faut continuer, et c'est très libératoire et très enrichissant, et parfois très surprenant. Mais c'est vrai que très souvent, chez l'adulte, il faut casser, quoi. Il faut casser des choses pour que cet adulte-là se libère, s'ouvre, se laisse aller, voilà. Alors que l'adolescent, lui, est en formation. Et du coup, le théâtre rentre comme un élément, formateur et peut faire vraiment des miracles. Moi, j'ai vu des choses miraculeuses se passer au théâtre.
Donc accompagner l'individu pour son futur et pas forcément en faire son métier, c'est ça que vous voulez dire ?
Ah non, bien sûr, non, il n'est pas question de... Ça peut arriver, il arrive, hein, sur la durée, j'ai des élèves qui sont devenus professionnels, bien évidemment. Mais le but n'est pas là, le but c'est simplement de faire une école du spectateur, déjà, d'éduquer le regard, et puis... Et puis en effet, de se lancer dans cette aventure, dans ce no man's land presque, et de s'y retrouver et de se trouver différemment. C'est comme une partie en voyage, c'est une aventure. On dit que les voyages enrichissent la jeunesse, mais je pense que le théâtre largement aussi.
Arrêtez avec les voyages, on n'en peut plus déjà. Hein.
Je sais comment vous parlez, moi.
Vous savez comment me séduire.
Je suis à bout.
nous avons eu la chance de voir récemment au cinéma Le Régent, La vie ou la pluie, le premier long métrage de fiction de Lavinie Beaufy, dans lequel vous jouez votre propre rôle, Francis. Mmh. Mmh. C'est un passage particulièrement émouvant du film, d'ailleurs. Le film est très très réussi, je l'ai dit et je le redis sur cette antenne. Et je félicite la production de Pierre Gambin, l'écriture et la réalisation de Lavinie Beaufy, où justement, vous mettez le pied à l'étrier à une jeune femme qui est Lavinie.
Oui, je me souviens très bien. Me souviens du film et je me souviens très bien du moment dans la vie réelle.
Mais j'aimerais bien que vous me racontiez ce moment-là, si c'est pas trop intime.
Non, c'est pas trop intime. Je peux raconter ce qu'elle a raconté, en fait. Hein. J'étais invité intervenant à Saint-Paul. Et sur un temps assez court, je crois que c'était sur un mois ou deux mois. Enfin, voilà, je venais une ou deux fois par semaine. Et donc, j'ai rencontré ces jeunes dans lesquels il y avait Lavinie. Je ne me rappelle plus quel cas ils étaient. J'étais en tout cas lycée, évidemment. Et je me souviens de cette jeune fille timide qui est venue avec un texte écrit à la main, dans sa main, qu'elle m'a donné. Elle m'a demandé si je pouvais le lire. Donc, je l'ai lu, je l'ai encouragé et on a monté avec ses collègues lycéens.
Et elle est montée sur scène réellement?
Je pense, là, je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, il faut vérifier avec elle. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens du moment où elle m'a donné ce texte. Je me souviens qu'elle était très, très émue et que je savais que c'était important, que c'était un texte qui était important pour elle et que c'était important que je l'accompagne dans cette lecture-là. Voilà.
Et lorsque vous avez joué votre propre rôle, et que je ne sais pas si vous avez vu le film.
Oui, j'ai vu. Oui.
Bon. Et lorsque vous avez vu le film, je ne sais pas ce que vous avez pu ressentir. Voilà, on ne va pas faire de la flagornerie ici, mais quand même, vous deviez être assez fier, non ? Vous dire, mais c'est utile ce qu'on fait quand on va dans les lycées.
Oui,
c'est
tout à
formidable.
Fait.
Non, ça,
c'est évident. Bon, ce que j'ai ressenti, justement, c'est que j'ai revécu un peu la réalité, c'est-à-dire les deux se sont un peu superposés dans l'instant, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait ce métier depuis trop longtemps, parce que voilà, après,
juste pour dire aux auditeurs,
Écosse, justement, j'ai commencé en Écosse, donc ça fait quand même un sacré nombre d'années.
Je vous interromps juste pour les auditeurs, parce que c'est vrai que je fais comme si tout le monde avait vu le film, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui a beaucoup de c'est l'histoire de plusieurs femmes sur plusieurs générations, sur un siècle, et il y a surtout en lead la vie de cette jeune fille qui est l'auteur du film, Lavinie Beaufy, qui a beaucoup de mal avec ses contemporains, avec ses camarades, qui a du mal dans sa vie, dans son corps, et qui, par le théâtre, va trouver une voie. Voilà. Et le professeur qu'elle rencontre, c'est vous. C'était juste pour resituer.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup, 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 beaucoup d'élèves. Et j'en ai encore qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, m'écrivent, me téléphonent de temps en temps, voilà, qui me disent à chaque fois que le théâtre a été vraiment une expérience très importante pour eux.
Tous ne font pas ce métier ou un métier qui est en lien.
Il y en a qui font. Par exemple, le gars qui est venu faire Burns Night là, sur le programme à l'ADIA, c'est un de mes anciens élèves. par exemple. Mais voilà, mais sinon, non, bien sûr, heureusement pour eux, ils n'ont pas tous fait du théâtre.
Pourquoi heureusement pour eux, n'importe quoi.
Non, je dis n'importe quoi, bien sûr, comme vous dites, merci Marie. Mais non, mais parce que c'est quand même un métier difficile, il ne faut pas se leurrer. Et puis voilà, et s'il y en a trop.
C'est vrai que comptable, c'est hyper facile et hyper sympa au quotidien.
C'est ça.
Comptable, oui.
C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais vous les dire aussi.
Ce qui est intéressant dans cette histoire avec Lavinie, comme il y en a eu d'autres que vous nous racontez ici, c'est comment sortir de cette adolescence et devenir un homme ou une femme lorsqu'on est engoncé dans son corps, dans sa propre histoire. Et le théâtre permet cela un peu plus rapidement, voire permet de le faire. Certains n'y arrivent jamais. Donc ça, c'est assez assez miraculeux. Outre l'art, c'est aussi un bon outil pour grandir, quoi.
L'essentiel, c'est, je trouve complètement. Heureusement que maintenant, j'espère que ça durera, le théâtre, par exemple, a enfin pénétré dans les lycées, les collèges et les écoles. Mais c'est absurde de l'avoir empêché d'entrer si longtemps. Moi, je peux raconter très brièvement.
Tout comme la musique, hein. Tout comme la musique.
Oui, oui, ouais. Mais alors, on parle de théâtre, mais comme la musique, tout comme les arts plastiques, etc. Ouais. Bien sûr. J'avais il n'y a pas si longtemps, là, il y a 5, 6 ans, 7 ans, une jeune élève, Laetitia, blonde, justement, et très, très, très timide, qui disait à peine bonjour, qui, dès qu'elle parlait, rougissait, qui se cachait derrière ses cheveux. Et puis, lorsqu'elle me voyait dans la rue, traverser pour pas avoir à me dire bonjour, ça je peux comprendre. Mais voilà, et puis ils sont partis à l'art, à faire un stage de masque, cette classe-là. Et ils sont partis 4 jours, 5 jours avec leur prof du lycée, et puis ils sont revenus, et puis j'étais assis à un café, et je vois de loin arriver cette jeune élève. Je me dis, ah, elle va traverser, pour pas avoir lieu. Et je la vois venir vers moi, s'arrêter, me faire la bise. J'ai failli m'évanouir. Et c'est vrai qu'elle est... Mais ça paraît, on dirait, c'est lève-toi et marche, quoi.
C'est incroyable.
Et le reste de sa scolarité au théâtre, elle est devenue très, très porteuse. Le port du masque.
C'est fou.
Le fait, d'un seul coup, d'être complètement caché, de pouvoir s'exprimer. Et de voir que le monde ne s'arrêtait pas de tourner, que tout le monde ne la regardait pas. Et voilà. Ça, c'est une histoire vraie.
C'est une belle histoire. On peut imaginer que lorsqu'on est timide et qu'on s'exprime peu, voire pas du tout, et qu'au théâtre, il faut savoir timbrer sa voix, il faut se faire entendre, on n'est pas au cinéma, ou on n'est pas à la radio. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se déclenche? Ça se travaille? Tout le monde peut se faire entendre sur une scène?
Tout le monde peut se faire entendre, tout le monde peut faire l'effort, tout le monde peut parler très fort, tout le monde peut être énervé, tout le monde peut parler à quelqu'un qui est de l'autre côté de la pièce, ou dans une boîte de nuit, ou dans un bar, essayer de couvrir les bruits ambiants. Après, c'est le fait d'oser. Mais c'est tout un travail, c'est en effet une des choses qui sont les plus difficiles à obtenir. C'est un travail, même quand ils sont en terminale, ils ont déjà 3 ans... 3 ans de travail, il y en a certains qui trouvent ça difficile. Mais ça se muscle, ça se muscle. C'est une question de respiration, donc il y a des exercices quand même pour ça. Mais c'est très souvent un combat.
Et le corps, c'est un combat aussi? Comment gérer son corps sur scène?
Après, ça évolue, c'est-à-dire il y a ce qu'on est quand on est en seconde, et puis il y a ce qu'on est quand on est en terminale.
Oui.
Là, on est déjà dans la vie obligé d'apprivoiser son corps, donc là... Le théâtre, je dirais, accompagne cet apprivoisement.
Alors justement, une fois qu'on a bien géré son corps, on peut... Alors écoutez cette transition, parce que je pense que c'est la meilleure de ma carrière. On peut, le 13 avril, se rendre à l'ADIA pour ce concert debout.
Oui, c'est très bon.
Magnifique.
De French Jazz qui rencontre la Cuban Rumba.
Voilà.
C'est une fois qu'on est à l'aise avec son corps, hein, puisque
oui,
on pourra danser.
Oui, mais là, oui, tout à fait. Là, ça va être un corps à corps. Il va bien faire chaud. Et là, c'est le jazz et la rumba. C'est pas le jazz et la java, mais c'est le jazz et la rumba. C'est vrai que c'est.
Ce sera le 13 avril.
Tout à fait.
Alors, vous nous en parlez pour nous donner envie. Vous êtes là pour faire notre métier,
je sais, mais là,
ne vous leurrez pas.
Il y a des choses que je n'ai pas vues, mais que j'ai entendues. Non, c'est magnifique, parce que c'est toute la force des cuivres. La rumba, en général, c'est purement percussif, même s'il y a des mélodies. Et là, la rencontre entre ces deux, c'est vraiment, comme dirait Nougaro, le jazz et la rumba sont là. Mais c'est très, très festif. On l'a choisi parce que c'est festif.
On l'a choisi parce que c'est
une espèce de feu d'artifice, presque final, parce qu'il y a encore des concerts derrière, mais voilà.
Alors ce sera... Non, c'est pas mal. Ce sera le 13 avril à 21h, donc concert debout. C'est du jazz assez pointu. J'ai pu voir quelques vidéos sur le net. Alors votre site est hyper bien fait. À l'ADIA, sachez qu'à chaque fois, il y a des liens qui vous conduisent à des vidéos ou à des sons pour pouvoir voilà savoir de quoi il s'agit exactement. Il y a toujours des textes, c'est très bien fichu, donc je salue les personnes qui s'en occupent, puisque je sais qu'il y a une vingtaine d'employés hein, là, qui s'occupent.
Oui, vous êtes loin du compte, parce qu'on est à la cinquantaine.
Presque à la cinquante, voilà. Donc je salue Marie-Claude qui est à la tête de cette armée. Et puis évidemment il y aura de la musique encore avec Bidal, ce sera le samedi 20 avril. Et puis avant de les écouter, de se quitter, Francis Aiki, vous avez envie de mettre un spectacle en avant qui arriverait après le mois d'avril.
Après le mois d'avril.
Qui serait après. Important d'aller voir.
Oui,
ou de...
oui, absolument. Macbeth.
Très bien.
À la Fabrique. Alors c'est hors les murs là. Hein,
D'accord.
C'est un magnifique spectacle. En plus, bon, c'est une pièce écossaise, évidemment, la pièce écossaise. Puisque vous savez qu'en en Grande-Bretagne, il y a une superstition qui dit qu'il ne faut jamais dire Macbeth, sinon ça porte malheur. Donc on dit la pièce écossaise. Donc D'accord. C'est une coïncidence. Il se trouve que, voilà, il se trouve que ce magnifique spectacle tourne. Et voilà, c'est vraiment très très fort. Je recommande à tout le monde. C'est très c'est visuel. Bon, le Starlang Sard, c'est surtitré, il n'y a pas de problème de compréhension. Et c'est un plaisir des yeux, et vraiment c'est magnifique.
Et lorsque vous dites que c'est hors les murs, c'est que ça va se passer chez vous à Ladia ?
Non, c'est, on a fait déjà le concert des 40 ans
d'Avilita. D'Avilita, à Fabrica, oui.
À Fabrica, voilà.
C'est du côté du Vadio.
Voilà, ce sont des studios.
Ah mais oui, mais parlez-moi, enfin, je suis à Bastia. Tenez-moi au courant de ces histoires-là.
Ah ben voilà, donc là, on a fait un premier concert. Voilà.
Vous voulez dire que c'est là où se tourne l'émission La Fabrica, c'est ça ? Ou pas du tout ?
Non, c'est Sapientone.
C'est une nouvelle salle.
Sapientone, voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà, Sapientone se tourne là. Ouais. Et donc, ils ont décidé...
Il y a l'émission La Fabrica aussi, par les mêmes producteurs que Sapientone, et qui doit se tourner là également. Et c'est un nouveau studio, qui est comme une salle de spectacle.
Exactement, voilà. Et qu'on est en train de faire évoluer dans cette direction-là aussi, donc... ce sera un lieu de concert et ce sera un lieu de théâtre.
C'est formidable, ça.
Ils utiliseront de temps en temps.
C'est formidable. Sûrement. Donc, Macbeth, et ça parle de quoi, vite fait ?
C'est la pièce.
C'est Macbeth, je peux le dire.
Macbeth de Shakespeare.
Shakespeare. Oui, oui. D'accord.
Oui, oui.
Revue et visitée en italien, en sarde.
Voilà, et c'est monté par une compagnie d'hommes uniquement, une distribution d'hommes uniquement, comme ça l'était du temps de Shakespeare.
D'accord. Et ce sera, je crois, le 14 mai.
Le 14 mai, exactement.
Il y aura une seule représentation à 21h.
Une seule représentation. Et derrière, il y aura, je le dis aussi, parce que le spectacle suivant,
oui.
C'est Irina Brooke. Donc, c'est un spectacle d'Irina Brooke. Là, oui. C'est d'après Molière, Don Juan et les clowns.
Très bien. Et ce sera le...
Le 17 et 18 mai. Là, c'est à Ladia, dans ses murs.
Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
J'aime beaucoup votre compagnie, même si, si elle est rare. Mais je passe toujours un bon moment et j'espère que ça a été pareil pour les auditeurs. Merci, Michael.
Merci, Marie.
Andréane, l'Écossais donc, de la bande. Et évidemment, on se quitte avec Bidal, puisqu'ils seront en concert à Ladia, dans les murs. Ce sera le 20 avril. À 21h et n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADIA pour retrouver tous les spectacles avec tous les teasers et les liens qui vous conduisent aux vidéos. Merci beaucoup à vous tous et à Stéphane Casalonga qui réalisait l'émission depuis Ajaccio et Doumé Mourat depuis Bastia.
Forza immensa d'una mossa lumuna per mugia l'inglese di Saderus affuna chi regna qui usò le qualuna chi regna qui usò le qualuna usò le luce augelente. Yeah. nebo djeriomu in qua forza immensa d'una mossa comuna per mugia l'inglese chi sa deru sa funa chi regna qui il sole qua luna e chi regna qui un sole qua luna Si la mia una